Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour Wilfried.
Mais bonjour Béa.
J'ai le plaisir, Wilfried, de t'avoir rencontré il y a une dizaine d'années grâce à Lecture en tête.
Déjà ?
Oui, ça passe. Wilfried, lors de ta venue au festival en tant que primo-romancier en 2008, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir ?
C'est un moment que j'oublierai jamais, je pense, parce que c'était très, très particulier, voilà, d'avoir été choisi. D'abord, je crois qu'en 2007, il y avait eu 276 premiers romans. Donc, d'avoir été choisi parmi les 15, c'était déjà super. Et puis, bon, il y avait une très, très bonne ambiance entre nous. Il y a des amitiés qui sont créées et qui sont restées, hein, avec Carole Martinez, avec Mitra Nui et d'autres. Donc oui, c'était espèce de, le souvenir que j'en garde, c'est d'avoir été dans un espèce de cocon avec énormément de bienveillance, parce que quand même le milieu de la littérature peut être rude. Et ce moment-là, Laval était extrêmement paisible, bienveillant. Voilà. Donc c'était aussi l'occasion de rencontrer des publics différents, scolaires. Et je me souviens que j'avais parlé avec un comité de lecture. C'était des gens malvoyants, donc souvent des octogénaires. Et c'était la première fois que j'avais un retour sur mon texte de gens qui étaient vraiment des seniors. Voilà, et qui avaient, pour certaines, elles avaient entendu le livre. Voilà, elles n'avaient pas lu. Donc voilà, c'était beaucoup de situations exceptionnelles comme ça. Ouais. Mais...
Et est-ce que tu avais conscience, avec ce premier livre, de la carrière d'écrivain à venir qui arrivait pour toi ? Ou est-ce que c'est venu plus tard ou avant, cette sensation d'être un écrivain ? Voilà.
C'est vrai qu'en 2008, j'avais beaucoup de difficultés en réalité de dire que j'étais un écrivain. Voilà, parce que tout ça était allé très vite. Et non, alors j'avais aucune idée de ce qui adviendra ensuite. Et je suis content d'avoir eu la présence d'esprit d'apprécier le moment. Voilà, je ne me projetais pas du tout dans l'avenir. C'était tellement intense, c'était tellement beau, que j'appréciais le moment. Voilà. Et je dirais que même je ne me suis jamais projeté dans une carrière, c'est vraiment de texte en texte, de livre en livre, qu'au final, je pense que c'est maintenant que je me rends compte que voilà, aujourd'hui, j'ai une œuvre, parce qu'on m'a invité dans une médiathèque à Paris il y a trois semaines de ça, pour mon œuvre. Et c'était la première fois de ma vie qu'on ne m'invitait pas pour un livre, mais pour mon œuvre. Donc voilà, j'ai réalisé maintenant que j'ai eu une carrière et que j'ai une œuvre. Voilà, ce qui ne m'était pas... Enfin, j'en étais pas très conscient, en fait.
Ah oui, je peux t'assurer que nous, on en est conscient, avec la lecture de tes livres et puis la qualité de ton écriture.
Merci.
Wilfried, je voulais savoir, je crois que ton travail te fait voyager régulièrement. Je pense évidemment à Berlinoise, mais je pense aussi à ce livre, Ilios Ferrat, Fille des Abysses. Pour ce livre, je crois que tu as eu une parenthèse de vie exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, alors d'abord, c'est très drôle ce que tu dis, parce que je suis allé parler d'Ilios Ferrat à Melbourne, en Australie, c'était en début mars. Et je puis dire depuis qu'avec mes livres, j'ai fait le tour du monde. Ouais. Parce que voilà, j'ai été sur les 5 continent pour mes livres. Et donc oui, j'ai écrit ce livre suite à une expérience avec la goélette, sur la goélette Tara, donc cette goélette mythique bretonne qui sillonne les mers depuis 20 ans pour nous faire un peu une espèce de nous donner une espèce de photo de l'état des océans, des mers, de toute la planète. Et moi, j'ai eu la chance de naviguer avec eux pendant 5 semaines au large du Chili. Alors on allait de Concepción jusqu'à Iquique. Et donc, c'était l'occasion d'être avec les marins, mais surtout d'être avec des scientifiques. C'était une équipe internationale. Il y avait des Français, bien sûr, un Espagnol, des Chiliens. Et c'était le privilège d'être avec des océanographes qui m'ont parlé du plancton, des bactéries, de la silice, enfin voilà, de tout ce qui concerne les océans. Donc c'est un peu comme une formation accélérée avec des travaux pratiques, voilà, parce qu'on faisait des prélèvements, on les observait, et c'est ce qui m'a inspiré, je pense, le seul roman de l'histoire de la littérature où les personnages principaux sont deux planctons et un bout de plastique.
Mais justement, c'est toute la qualité là, de ton talent d'écrivain, parce que c'est exceptionnel d'avoir fait un livre comme ça.
Alors oui, alors c'était difficile. Personne, même pas mon éditeur Stéphane Durand, ne croyait que ça fonctionnerait. Mais j'aimais ce côté challenge, voilà. Et oui, au final, oui, c'est un livre qui a très bien marché en librairie en France, et pour lequel j'ai travaillé avec des scolaires, des universités, et que je voyage dans le monde. Je suis déjà allé en Algérie, en Australie, je vais aller au Chili, en Argentine, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel, oui.
Bravo. Bravo pour tout, hein, pour l'œuvre, pour la carrière, enfin pour tout. Tu écris, mais tu es aussi voyageur et donc tu es aussi musicien.
Oui, oui. Oui, alors c'est... Alors bon, ces dernières années, je n'ai pas beaucoup joué, j'ai même pas beaucoup chanté, mais j'ai vécu une expérience nouvelle, parce que j'ai écrit un livret théâtral sur un opéra baroque de Marc-Antoine Charpentier. Donc c'était une autre manière de faire de la musique. Et là encore, j'ai eu le privilège de côtoyer, d'entendre des chanteurs lyriques virtuoses, des musiciens d'instruments du XVIIe siècle, virtuose aussi. C'était une expérience, encore une fois, exceptionnelle, et tellement de mélodies. Et puis, c'est des gens qui ont énormément de talent, mais qui sont très simples. Voilà, c'était une belle leçon aussi, ouais. Et l'opéra a été joué au Théâtre de Caen, à l'Opéra de Nancy, au Théâtre des Champs-Élysées, au Luxembourg. Il va être joué au Théâtre de Lille. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui tourne. Et j'ai écrit aussi un livret d'opéra contemporain, là c'est moi qui ai écrit tout le livret, et qui va être donné dans 10 jours à Évreux, au Cadran. Pour les Normands, n'hésitez pas, c'est à 16h le 26.
Bravo. Alors pour la simplicité, je pense que tu n'as aucune leçon à recevoir de personne, parce que vraiment tu es d'une grande simplicité et d'une grande, voilà, d'un talent exceptionnel.
Ce qui me fait super plaisir, c'est que quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais de la musique punk dans les caves de Berlin. Plus tard, j'ai fait de la chanson française, des lectures musicales, et mettant, voilà, du baroque et du contemporain. Donc voilà, c'est une espèce de voyage musical sur 30 ans. Donc c'est sympa, ouais, j'aime, j'apprends.
Et je crois que ton dernier livre, celui dont tu vas nous lire un extrait tout à l'heure, je crois que ton dernier livre est aussi inspiré d'une musique. On peut l'écouter peut-être avant ce petit moment de lecture ?
Volontiers.
Ça te va ? Wilfried, je veux bien que tu nous parles de ce dernier roman que tu viens d'écrire, et puis je veux bien que tu nous lises un extrait avant, comme tu veux.
Je vais lire l'extrait, et puis on en parle ensuite.
Super. Ouais.
Ma mère me mit au monde à l'heure ambiguë du crépuscule, après de longs efforts qui suppliciaient ses entrailles. À chaque poussée, elle avait pensé perdre connaissance. Son martyre s'était étiré jusqu'en fin d'après-midi. J'étais un minuscule nourrisson d'à peine 2 kilos qui glissa hors de son ventre et remonta à la surface des flots, la tête plongée dans l'eau douce et les membres déployés dans toute leur longueur. Ma mémoire a conservé le souvenir de ces délicieuses secondes où mon corps fragile ondula mollement au gré du courant, dans un état de plénitude. Puis Apollonia fit des incantations pour m'accueillir parmi les hommes, pour me lier à tout jamais à la terre de mes ancêtres et à son fleuve majestueux, puisque mon sang dilué dans les eaux de la source claire de l'Ampozo irait se mêler à celle du fleuve Congo avant d'atteindre l'océan Atlantique. Elle me sortit de la rivière afin de sectionner le cordon et d'extraire le placenta. Dès les premiers instants de mon existence, je fus une déception pour ma mère, tant elle aurait souhaité que son aîné soit un garçon. Dans un reste d'énergie, elle me tendit les bras en soupirant. Apollonia s'étonna de mes yeux grands ouverts, dévoilant des nuances de clair de lune sur mes iris très sombres, puis fut captivée par leur éclat d'ombre et de lumière. De ma petite bouche retentit un étrange cri primal qui résonna dans la clairière. Une plainte, une lamentation déchirante. Sans avoir le temps de s'en émouvoir, les deux femmes en comprirent la signification lorsque, après une ultime contraction qui stupéfia ma mère, un second enfant quitta son ventre. L'astre de nuit posa alors une lueur pâle à la surface des eaux. Il illumina un amas de chair recroquevillé en une boule inanimée. Ma pauvre petite sœur jumelle naquit les poings et les yeux fermés, sans le moindre souffle de vie. La coucheuse remercia les esprits d'avoir permis que l'une de nous revienne des entrailles du trépas. Elle me prit contre elle, moi qui hurlais maintenant sur la berge, me souleva et me porta à bout de bras pour me présenter au ciel en criant au miracle. Les ancêtres adressaient un signe clair aux vivants. Il leur avait envoyé une combattante, un être à part, d'une essence inédite.
Merci beaucoup pour la lecture. Alors tu vas nous parler de ce livre, si tu veux bien, Wilfried. Et puis, il y a des éléments qu'on retrouve aussi dans certains de tes romans, l'invisible, la femme, la place de l'amour. Voilà, je serais bien que tu nous parles de ce dernier...
Oui, l'utopie aussi. Oui. L'utopie et de la chanson. Hein, aussi. Oui, alors, la reine aux yeux de lune, c'est l'histoire de Kimpa Vita. Alors, Kimpa Vita est un personnage qui a vraiment existé. Ce roman est un roman historique, même s'il a des côtés de légende, de conte, c'est vraiment vrai. Alors, et elle a existé fin 17e, début 18e dans le royaume du Congo. C'était une résistante. C'est quelqu'un de très jeune qui s'est insurgé contre les agissements des Portugais, mais aussi contre les agissements des élites locales, et qui a pensé une utopie. Voilà. Elle rêvait tout simplement d'une meilleure vie pour son peuple. Voilà. Je pense que c'est la dernière proposition d'un modèle de société en Afrique centrale, fin du 18e. Et ce qui est extraordinaire, c'est que elle a pensé une utopie, qui a été pratiquée pendant 2 ans. Le monde a connu beaucoup d'utopies et d'utopistes, mais rares sont les utopies qui ont été vraiment pratiquées. Donc, elle a un caractère très exceptionnel, et je pense aussi qu'elle est très contemporaine dans le sens où elle était féministe sans le savoir. Voilà. Donc voilà, ça fait. Et c'est au final aussi un personnage très romanesque, parce qu'elle est à la lisière de l'invraisemblable.
Voilà, oui,
elle est très mystérieuse. Elle était convaincue de mourir le vendredi, s'entretenir avec Dieu et se réveiller le dimanche. Saint Antoine de Padoue vivait en elle. Voilà. Donc c'est quelqu'un vraiment de très complexe.
Oui. Et l'invisible est très présent dans ce livre. Et il était déjà présent dans ton premier roman. Tu en parles, il y a un des personnages qui le dit à ton moment, qui dit « Et l'invisible, je ne l'entends plus ». Voilà. Je voulais savoir, la femme, régulièrement la femme revient dans tes romans. Elle est souvent une héroïne. Voilà. C'est un sujet... comment on écrit
Oui, alors, on pose de plus en plus la question. Les lycéennes, ce matin, me posaient la même question, mais je leur disais, mais le vrai problème, c'est que les femmes sont trop absentes de ce monde. Elles sont là, mais on ne les considère pas. Du coup, on ne les voit pas. Et dès qu'on leur rend leur place, ça paraît bizarre.
Oui, c'est vrai.
Voilà, alors que non, je pense que c'est simplement normal, je dirais. Voilà. Peut-être même juste. C'est plus juste.
Mais merci.
L'histoire de l'humanité est une histoire d'hommes et de femmes.
Complètement.
Voilà, mais on ne raconte que des histoires d'hommes, de généraux, de machins, de papes, tout ce qu'on veut. Comme si les femmes, donc, c'est quand même plus de la moitié de l'humanité, est seulement spectatrice de l'histoire. Ça ne peut être que faux.
Ouais.
Voilà, donc non, je pense que c'est pas moi qui mets particulièrement les femmes en avant. Ce sont nos sociétés du XXe siècle et d'avant qui les mettent en retrait.
Oui, complètement.
Voilà.
Bon, en tout cas, c'est bien que tu rétablisses les choses. On te remercie. Est-ce qu'il y a, on le voit à travers tes romans, mais est-ce que toi, tu as des messages, des revendications que tu souhaites faire passer à travers ton travail d'écriture?
Alors, je dirais que c'est pas le but. J'ai eu la chance de visiter le musée juif de Berlin quand il n'y avait que le bâtiment, quand il avait été créé, quand il n'y avait pas encore de collection. Et j'ai eu une visite guidée par l'artiste qui expliquait que pour lui, l'œuvre d'art, c'était même pas le bâtiment, c'était encore moins les collections, mais c'était l'expérience qu'il voulait que les spectateurs fassent. Quand ils entrent dans le bâtiment, il y avait tout un travail sur les surfaces du sol pour que les visiteurs fassent l'expérience émotionnelle de ce que les Juifs d'Europe avaient vécu. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc je ne veux pas délivrer des messages. Je propose de faire vivre une expérience par les lectrices. Voilà. Dans la reine au jeu de lune, dès le début, j'emmène l'électrice, les lecteurs au XVIIe siècle avec Kimpa Vita. Voilà. C'est ce que je propose, qu'on refasse le parcours de sa vie. Et ensuite, chacun se crée les messages qu'il veut. Mais je veux absolument pas. Je n'écris pas pour donner tes messages. Je fais confiance aux lectrices, aux lecteurs. Elles, ils sont assez intelligents pour tirer les enseignements qu'ils veulent. Mais s'ils s'en tiennent à l'expérience émotionnelle que je propose, ça me va.
Et l'expérience émotionnelle est très forte. Et moi, je vois plutôt la littérature, enfin en tout cas ton métier d'écrivain, comme un métier, comme un partage. Mais voilà, toi, comment tu le vois justement à travers de toutes tes rencontres que tu fais, quel est le retour que l'on te donne au quotidien, comme tu disais, avec ces jeunes filles?
Ce qui me plaît beaucoup, c'est que les gens qui me lisent me posent des questions. Ça me prouve que je ne suis pas dans quelque chose de dogmatique. Voilà, on lit le livre, on se pose des questions, je n'impose pas de réponse. Voilà. Et à chaque fois que je rencontre des lectrices, des lecteurs, il y a énormément de questions et ça me fait plaisir. Voilà. Parce que, encore une fois, je propose une expérience, je ne donne pas de clé.
Non, voilà. Tout à fait.
Donc oui, on reste dans l'échange. Voilà. Oui, c'est pas... Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas quelqu'un qui impose des idées. Voilà. Si on se pose des questions, c'est super. Et si on ne sait pas, c'est mieux. Voilà, ouais.
On le voit à la lecture, de toute façon, voilà, de tes romans, que tu n'essaies pas de donner quoi que ce soit. Ouais. Ouais. Wilfried, tes romans sont aussi empreints d'une grande sensualité. C'est extrêmement agréable de te lire. Ah. Tu as conscience aussi de ça?
Ben, c'est une ambition, oui. Donc, ça me fait plaisir.
C'est une ambition aboutie.
Ah ouais, oui, c'est, bah oui, c'est, je pense que c'est la sensualité comme la spiritualité sont des ressources très importantes pour les êtres humains, mais ce sont des ressources qui sont très négligées. Voilà, dans notre société matérialiste, on en oublie la spiritualité. Alors, je suis pas pour le tout sensuel ou le tout spirituel, mais là aussi, j'ai envie de te proposer une espèce de rééquilibrage. Voilà, et je pense que c'est très intéressant, c'est très enrichissant, passionnant, apaisant de retrouver la sensualité qui est en chacun de nous.
Oui, tu as raison, c'est très apaisant, ouais. C'est très agréable.
Et c'est aussi une partie du chemin que fait Kim Pavita. Qu'on est éduqué pour être un guide, pour être prophétesse et ainsi de suite, mais on l'a jamais éduqué pour prendre conscience de son corps et pour se nourrir de toutes les sensations, toutes les émotions que pouvait lui procurer son corps.
Mmh. Ouais. Elle vit d'ailleurs des choses très difficiles hein, pendant la traversée qu'elle fait au tout début.
J'ai écrit quelque part, au hasard des tempêtes, nous devenons plus beaux.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, dans cette vie, on le sait tous, hein, y a des phases difficiles, voilà, mais c'est aussi des phases où on apprend, on grandit, on mûrit. Donc, c'est la vie de Kim Pavita.
Kim Pavita, c'est sorti, c'était l'année dernière, en 2023, ton dernier roman.
Oui, oui.
J'imagine que là, tu es sur un autre texte depuis déjà longtemps.
Oui. Ah oui, c'était même sur deux. Bon, j'en ai un qui est fini. Alors, c'est celui qui est fini, c'est qui va sortir en octobre. Alors, c'est un petit roman que j'ai écrit avec les éditions Cambourakis et le musée des Confluences à Lyon. Il s'appellera Sœur d'hier. Parce que l'idée du musée, c'est de demander à un écrivain de s'emparer d'un des objets du roman et d'en faire un texte. Ça peut être un poème, un essai, tout ce qu'on veut. Et moi, j'ai pris, il y a un objet dans le musée. Ce sont trois femmes préhistoriques. Il y a une femme de Flores, une Néandertale et une Homo sapiens. Et moi, j'invente que je sois rencontré un jour, donc il y a 30, 40 000 ans. Voilà. Et dans le même ordre d'idées, quand on te parle d'humanité et de préhistoire, on te montre des hommes, soit qui chassent, soit qui peignent les grottes. C'est un parti pris suspect. Que faisaient les femmes? Parce que si ces messieurs chassaient et peignaient, elles faisaient quoi alors? Donc oui, c'était une occasion. Là, il y a que des femmes. Dans mon histoire d'homme préhistorique, il n'y a que des femmes. Et aussi, c'était intéressant d'essayer d'imaginer comment trois espèces différentes d'humains ont pu se rencontrer. Puisque aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce, Homo sapiens, mais jusqu'à il y a 30 000 ans, il y avait toujours eu plusieurs espèces d'humains. Donc, c'est important aussi de comprendre pourquoi les autres ont disparu. Maintenant, on commence à se dire qu'en fait, elles n'ont pas disparu. C'est que nous sommes la somme de tous ces mélanges-là. Et donc, nous serions, au conditionnel, des métis fondamentaux.
C'est formidable.
Ouais.
Wilfried, je crois que nous arrivons au terme de cet entretien.
Déjà?
Oui. On va écouter ton coup de cœur musical. Tu veux nous en parler avant qu'on se dise au revoir?
Oui, Love Is All, moi, c'est une chanson que j'écoutais déjà enfant. Il y avait un clip qui était joli, en BD avec des animaux, des grenouilles, tout ça. Et c'est un hymne à l'amour. Voilà, la mélodie est joyeuse, la musique aussi. Aimons-nous tous, c'est mieux.
C'est super. C'est excellent. Wilfried, merci. À très bientôt en Mayenne, ailleurs. Je te souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de voyages et on t'attend avec plaisir pour te lire.
Je reviendrai. Merci à toi. Et merci à Lecture en Tête.
Merci à Lecture en Tête. Merci.